Joseph Reich, le mendiant. Les mendiants s'en vont sur la route. Ils marchent lentement, le dos courbé, appuyés sur leurs bâtons noueux. Oh, ils connaissent bien la province, les vieux mendiants. Depuis de longues années, ils partent au printemps et reviennent à l'automne. Ils sont beaux dans le rayon, les vieux mendiants de chez nous. Leurs figures creusées par la faim, le froid, le vent, brunis par le soleil, ressemblent à un médaillon finement ciselé. Et pourtant, il y a une grâce décente dans leur maintien. Les vieux mendiants s'en vont, qui vont de porte à porte, ont des manières de grands seigneurs. Ils frappent poliment et disent « Bonjour, mon bon monsieur et ma bonne dame, bonjour la compagnie, la charité pour l'amour de Dieu. » Ils ramassent des sous qu'ils glissent dans leur besace, de la laine, des œufs, du savon, qu'ils mettent dans leur panier. Et en partant, ils disent « Merci, mon bon monsieur et ma bonne dame, le bon Dieu vous le rendra. » En effet, ils sont beaux et nobles, les vieux mendiants. Échelonnés sur la route, ils en passent plusieurs par jour, quelquefois 4, 5, 6 et même davantage. Nos gens ne trouvent pas qu'il y en ait trop. Les plus charitables en sont même contents. Ils disent « Oh, nous avons été bénis aujourd'hui. Il est passé 10 mendiants. » Seuls les riches se plaignent quelquefois qu'il y en a trop. Ils voudraient les faire enfermer et que le gouvernement s'en occupât. Aussi, ils les reçoivent froidement, ils les regardent d'un œil mauvais, qui les scrutent des pieds à la tête et qui semblent dire « Mais vous n'êtes pas assez infirme pour être mendiant, pourquoi ne travaillez-vous pas ?» Quelquefois, on les a conduits rudement. D'autres fois, on ferme les portes à clé quand on les voit venir sous prétexte qu'on en a peur. Pourtant, les vieux mendiants sont doux et bons. Ils ne jettent jamais de mauvais sorts. Quand on les insulte, ils ne disent rien. Ils s'en vont tristement. Oh, ils finissent par connaître les maisons inhospitalières. Ils les reconnaissent à un certain air de parvenu, de mauvais goût, où il y a trop de tapis, trop de tentures, trop de rideaux, trop de dorures. Et ils ne s'y arrêtent pas, car les mendiants sont de grands seigneurs qui connaissent leur compagnie et la choisissent. Ils ont joie à entrer dans les maisons modestes où on les reçoit, où on les fait manger à table et coucher dans un lit. C'est pourquoi les enfants de ces maisons sont plus forts et plus beaux. Ils ont grand air, ces mendiants, qui s'avancent lentement sur la route comme des patriarches. C'est un honneur de leur donner. Il ne faut pas les confondre avec les vagabonds qui ne sont pas de chez nous, qui souvent ne parlent même pas notre langue, marchent vite comme s'ils étaient traqués et ne s'arrêtent que quand ils ont faim. De mauvaises lueurs dans les yeux font aboyer les chiens. Le vrai mendiant à notre accent, parle comme nous, prie comme nous, il aide chez nous. C'était un de ces vieux mendiants. Il avait bien 50 ans. Chaque année, il passait dans les paroisses du bas du fleuve. On disait qu'il venait de l'ouest de la province, mais personne ne savait d'où il venait. Dans sa jeunesse, il était tombé et s'était cassé une jambe. Cette cassure mal soignée n'avait jamais guéri, et il en était resté infirme. Il était beau, ce vieux petit mendiant. Lorsqu'il marchait, clopin-clopant, sur les routes qui côtoient le Saint-Laurent, il connaissait tous les détours, toutes les courbes des chemins, les paysages qui les bordent, pouvait dire les maisons qui donnent et celles qui refusent leurs portes. Chaque printemps, c'était une nouvelle joie de partir. La poussière des routes, le grand soleil de juin, les pluies de l'automne étaient ses amis. Ses vieux vêtements rapiécés rayonnaient dans la lumière du jour. Les mendiants sont pleins de civilité entre eux. Il n'y a pas de classe d'homme si indemne de jalousie. Ils cèdent, se conseillent, s'aiment. Ils pratiquent ce qu'ils implorent, la charité. Ils croient à leur vocation, car c'est une vocation que Dieu a instituée quand il a dit « Il y aura toujours des pauvres parmi vous. » C'est pourquoi ils se saluent quand ils se rencontrent, s'assoient ensemble sur les talus du chemin, causent en se reposant et en comptant leurs sous. C'est dans ces circonstances que le père Nicolas avait rencontré jadis une petite vieille mendiante dont le bras était desséché par les fièvres enfantines. Quand il l'avait rencontrée, elle était très fatiguée de porter son panier de la même main. Et il la lui avait portée pendant toute une journée. Et ils mendiaient chacun de son côté. Et la journée n'avait pas été longue. C'est qu'elle causait bien, la mère Béatrice. Elle savait conter comme nul autre. Des histoires de gens qui se cachent pour ne pas donner. Elle ne tarissait pas de verve et d'entrain. Après l'avoir quitté, le père Nicolas avait trouvé la route bien monotone. Le souvenir de cette petite vieille joyeuse, avec sa robe indienne, son mouchoir en pointe sur ses épaules, l'avait hanté pendant plusieurs jours. L'année suivante, comme il traversait la paroisse de Saint-Jean-Port-Joli, il la rencontra de nouveau, et tous les deux furent heureux de se revoir. Ils font route ensemble jusqu'à Lévis, et lorsqu'ils se séparèrent, l'un pour aller dans la Beauce, l'autre vers le nord, ils s'étaient causés longuement. Vous marieriez-vous si vous trouviez un bon vieux? Ah oui, mais faudrait qu'il fût de ma condition. avait-elle répondu avec coquetterie. Je ne m'arriverai jamais un journalier. On n'en a fait pas dit davantage, mais on s'était donné rendez-vous pour l'été prochain à trois pilotes. Chacun avait compris qu'il s'aimait et qu'il se marierait. Le père Nicolas passa tout l'hiver à ranger sa chaumière. Il lava fond en comble, blanchit les murs à la chaux, mis de petits rideaux blancs sur les croisées. Vraiment, elle ressemblait à un vieux petit nid joyeux. De bonne heure au printemps, il partit, ayant mis ses plus beaux habits, car il célébrait ses noces cet été, et s'était muni de tous les papiers qu'il fallait pour que rien ne retardât son mariage. Il se sentait plus alerte à la tâche maintenant. À l'époque indiquée pour le rendez-vous, il était à trois pistoles. « Oh, je suis en avance, dit-il, riant en lui-même d'être arrivé le premier. Il fit la paroisse lentement pour permettre à la mère Béatrice d'arriver à son tour. Et les semaines passaient, mais elle ne venait pas. Lui était inquiet, mais ne désespérait pas encore. Quand il rencontrait un autre mendiant, il lui demandait « Avez-vous vu la mère Béatrice, la petite vieille, avec un chapeau de paille attaché sous le menton et un mouchoir sur les épaules ?» Et tous disaient qu'ils ne l'avaient pas vue. Enfin, il en trouva un qui lui dit qu'il l'avait rencontré à la grande rivière, qu'elle avait été malade, mais qu'elle était mieux, et s'était mise en route. Encouragé par ces paroles, il attendit jusqu'à la fin d'octobre. Et bientôt, il eut tout dépensé, toutes ses économies. Il fallait songer à partir avant les tempêtes de l'hiver. Il partit donc la mort dans l'âme, ne sachant que penser, et il arriva chez lui pour la fête de Noël. L'hiver fut triste et rigoureux, et le petit vieux trouva les jours bien longs, seul dans sa chaumière. Au printemps, il se remit en chemin dans l'espoir de retrouver la mère Béatrice. À Sainte-Louise, il rencontra un mendiant qui remontait et lui demanda « Avez-vous vu la mère Béatrice ?» Une petite vieille avec un grand chapeau de paille attaché sous le menton et un mouchoir à pointe sur les épaules. Ah, en effet, dit l'autre, elle est morte. On l'a trouvée à demi gelée dans un chemin de bois. Elle avait demandé à loger un soir, une tempête. La grosse maison verte, vous savez, la grosse maison avec les portes blanches. Avant d'entrer dans la forêt, et on l'a jetée dehors. Et il y a de bons milles de grands bois avant d'arriver à le mutation suivante. Alors elle est tombée et tout de suite elle est morte de misère. C'est bien triste. Elle était si gaie. Le père Nicolas se remit à marcher. De grosses larmes coulaient sur sa barbe. Depuis, tous les ans, il va en pèlerin à l'endroit où est morte la mère Béatrice. Il s'arrête pour interroger les arbres, se penche pour baiser les terres, les pierres de la route, et reprend sa marche. Personne ne soupçonne la grande et divine douleur que cet homme porte dans son cœur.